ce soir, nous recevons Jean-Loup Puget, qui va nous parler de cosmologie et observation, c'est-à-dire, je dirais, de je suppose, et j'espère que je ne me trompe pas, des retombées, en quelque sorte, dans la théorie des apports observationnels. Mais enfin, ça, je veux dire, on le verra. Donc Jean-Loup Puget est né en 1947. Il est astrophysicien. Il est ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique à Cachan. Il a une maîtrise de physique de l'Université d'Orsay. Il a un diplôme d'études approfondies en physique théorique. Et il est docteur d'État, un doctorat qu'il a réalisé sous la direction d'Evry Schatzmann en 1973. De 1978 à 1982, il a été directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique de Paris. Il a fait ensuite de nombreux séjours aux États-Unis, au Goddard Space Flight Center, où il a été chargé d'études de définition pour le projet Kobe, puis ensuite au Space Science Department de l'Université de Californie à Berkeley. Il a été chercheur au laboratoire de radioastronomie du département de physique de l'École normale supérieure de 82 à 89. Et à partir de 89, il est chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Il a été directeur adjoint de cet institut et il est maintenant directeur de l'Institut d'astrophysique spatiale depuis 98. Il est auteur de nombreuses publications à caractère scientifique, membre de nombreux comités scientifiques nationaux et internationaux, parce que comme vous l'avez vu, les activités scientifiques sont immédiatement en prise avec des programmes d'exploration spatiale et des programmes d'observation. Et donc je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes pour nous parler de cosmologie et observation. Et ensuite, comme d'habitude, il y aura un temps pour... répondre à vos questions. Merci.
Je vous laisse. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là pour vous parler d'un sujet qui m'a occupé finalement depuis le début de ma carrière et de ma thèse, qui consiste à essayer de faire des modèles de cosmologie et surtout à essayer de savoir comment on peut les tester. Je vais commencer par vous parler d'un problème particulier, c'est que la cosmologie entretient avec l'observation des relations qui sont assez originales pour la raison suivante. La cosmologie, évidemment, comme l'astrophysique ou les sciences de l'environnement, est une science observationnelle, par opposition aux sciences expérimentales. On ne peut pas aller changer les paramètres des objets astrophysiques, encore moins de tout l'univers. En environnement de la Terre, ce n'est pas non plus la méthode scientifique, même si collectivement on essaye par exemple de changer la composition de l'atmosphère, ce n'est pas simplement pour tester les modèles. La cosmologie, dans l'astrophysique, a néanmoins un problème particulier. Donc la cosmologie se donne pour objectif d'étudier l'univers à grande échelle, dans son ensemble, et d'étudier son histoire. Alors évidemment, ça veut dire que l'objet d'étude de la cosmologie est un objet unique, à histoire unique. Et donc on peut se demander, quand on fait une théorie qui colle avec les observations, ou avec certaines observations, dans quelle mesure, quel est le moyen finalement de savoir si cette théorie est bonne au sens traditionnel des sciences expérimentales. Et la réponse habituelle de l'astrophysique ne peut pas être appliquée. L'astrophysique, finalement, définit des classes d'objets par des caractérisations simples. On définit les étoiles, c'est tous les objets qu'on voit dans le domaine visible et qui sont quasi ponctuels pour les télescopes. Et puis on étudie leurs propriétés, et dans l'ensemble des étoiles qu'on voit, on s'aperçoit effectivement que les propriétés des étoiles dépendent d'un tout petit nombre de paramètres, et que finalement, l'ensemble des étoiles qu'on observe décrivent assez bien la séquence de ces paramètres, par exemple la masse des étoiles, qui est le caractère essentiel. Donc cet outil statistique, qui est celui qui est très important dans l'astrophysique, dans la confrontation de modèles et d'observations, n'est pas disponible pour la cosmologie. Une autre différence, qui va cette fois-ci dans un sens un peu opposé, c'est que l'astrophysique étudie le plus souvent, pas toujours, mais souvent, des systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes où il y a beaucoup de phénomènes physiques, beaucoup de paramètres qui interagissent entre eux, souvent des phénomènes non linéaires, chaotiques, c'est le même genre de problème que ceux qu'ont les gens qui travaillent en sciences de l'environnement. Et il est difficile de modéliser très précisément et de faire des prédictions qu'on peut vérifier avec une très grande précision. Donc, la cosmologie, de ce point de vue-là, n'a pas exactement ce problème-là. La cosmologie qui regarde l'univers dans son ensemble regarde un système qui, finalement, du point de vue de l'application des lois de la physique, est plutôt un système plus simple, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et qui est un système qui permet, effectivement, quand on a des modèles cosmologiques, de faire des prédictions très précises. Donc, du point de vue de la confrontation des prédictions avec la mesure, ça ressemble plus à la physique, et même plus spécifiquement à la physique fondamentale, qui, d'ailleurs, est une science expérimentale jusqu'à un certain point, puisque finalement, quand on regarde pour l'infiniment petit, la physique des particules, ce qui se passe dans les très hautes énergies, ou ce qui se passe d'ailleurs dans les champs gravitationnels forts, on n'est pas capable de les reproduire en laboratoire, et donc finalement, on est ramené à regarder l'astrophysique ou la cosmologie pour en faire la partie expérimentale. Et la cosmologie et la physique fondamentale sont deux sciences qui sont imbriquées depuis la naissance de la cosmologie scientifique, et qu'ils sont encore plus aujourd'hui. Alors évidemment, je vais essayer de dater le début de la cosmologie scientifique, aux environs de 1920. Les questions cosmologiques, elles ne sont pas apparues au XXe siècle. Les gens se sont posés la question de savoir si l'univers était fini. Ça fait longtemps. Giordano Bruno a même été brûlé pour avoir prétendu que l'univers était infini. Mais il l'a prétendu sur des arguments qui étaient plus théologiques, même si une partie de son point de départ, c'était la révolution copernicienne, qu'il a très vite adoptée, et qui lui faisait dire que finalement, si la Terre n'était pas au centre de l'univers, après tout, à ce moment-là, s'il n'y avait pas de centre défini, il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas des objets du même type partout. Et si Dieu avait une puissance infinie, il ne voyait pas pourquoi l'univers n'était pas infini. Une question plus précise sur le savoir si l'univers est fini ou pas, c'est évidemment le paradoxe d'Olbers, qui lui s'est posé la question en disant « on voit des étoiles ». Si l'univers est infini et rempli d'étoiles, sur chaque ligne de visée que j'ai en n'importe quel point du ciel, si je vais suffisamment loin, je vais toujours tomber sur la surface d'une étoile. Et donc, finalement, le ciel doit être aussi brillant que n'importe quelle étoile, donc pratiquement que le soleil. Or, le ciel est noir. Donc, il y a un problème. Ou bien l'univers n'est pas infini, ou bien, il n'y a pas des étoiles partout. Ça, c'était simplement en partant d'une observation, une remarque fort judicieuse, mais qui, pour l'instant, ne s'inscrivait pas vraiment dans un modèle. Alors, à partir de quand on a pu commencer à faire des modèles cosmologiques et de la cosmologie scientifique? C'est finalement à partir du moment où Einstein établit, au début du siècle, la relativité générale. Donc, c'est une théorie relativiste de la gravitation qui décrit l'effet de la gravité, non plus comme la gravité newtonienne, comme une interaction instantanée à distance, mais comme quelque chose qui est une action qui peut être décrite par une distorsion de l'espace-temps. En fait, dans les points de départ d'Einstein, pour la relativité générale, comme pour la cosmologie qu'il a fait après, il y avait le problème de l'inertie, d'expliquer pourquoi il y a des référentiels inertiels, et l'idée, qui est le principe de Mach, qu'il suivait, était que c'est la distribution de la matière à très grande échelle qui définit finalement le référentiel d'inertie. Et donc, si on veut pouvoir utiliser ce principe et penser que c'est bien ça qui définit l'inertie, on peut démontrer assez facilement qu'il faut que l'univers soit homogène à très grande échelle. Donc, quand il a commencé à faire de la cosmologie, Einstein a introduit le principe cosmologique, qui est toujours utilisé par les cosmologistes, qui est introduit a priori, mais qui se révèle une bonne hypothèse de travail, qui est que l'univers est homogène et isotrope si on va à assez grande échelle. Le point sur lequel je veux insister, c'est que c'était une idée qui était basée sur des principes de physique fondamentale, ou en partie même philosophique, c'est le principe de Mach, un statut un peu intermédiaire, et que ce n'était pas du tout dirigé ou piloté par les observations. En fait, à cette époque-là, au début du XXe siècle, qu'est-ce que les astronomes voyaient? Les astronomes voyaient des étoiles, et puis ils voyaient effectivement qu'à une certaine distance, la quantité d'étoiles décroissait brutalement. On sait que c'est finalement les bords de la Voie lactée. Et puis les astronomes n'avaient pas été capables de distinguer les galaxies extérieures des nuages interstellaires. Et donc, ce qu'on voyait, c'était un système d'étoiles très inhomogène. Et puis, dès qu'on a eu d'ailleurs, dans les années 20, finalement, mis en évidence les galaxies extérieures équivalentes à la Voie lactée, on s'est aperçu que les galaxies étaient regroupées en amas, qui eux-mêmes étaient regroupées en structures plus grandes, et donc on a assez vite abouti à des structures charniées, par exemple, à construire des modèles hiérarchiques, où en fait les galaxies étaient rangées dans un système hiérarchique qui allait jusqu'à l'infini. Donc il n'y avait pas d'homogénéité, quelle que soit l'échelle à laquelle on allait. Et si on regarde le gros ouvrage d'Eddington, écrit en 1914, même chose, il insiste surtout sur l'inhomogénéité de la distribution des objets astrophysiques plutôt que l'homogénéité. Donc on voit ici, par exemple, que la cosmologie démarre avec des principes qui sont définis à partir de la physique fondamentale ou principes très généraux qui sont plus liés à la logique, qui sont plus liés à l'élégance de la théorie qu'à l'observation. Alors j'ai daté le début de la cosmologie scientifique en 1922, bon, on peut discuter de cette date exacte, mais en gros, c'est le moment où on construit, à partir de la relativité générale, des modèles de l'univers dans son ensemble. Alors, pourquoi effectivement je dis qu'il n'y avait pas de modèle cosmologique avant cette date? En mécanique newtonienne, si on a un univers infini, a priori, la gravité va faire que ce système va s'effondrer sur lui-même, va être instable, et donc on ne sait pas comment construire, et on n'a pas, personne n'a cherché à construire des modèles d'univers en mécanique newtonienne, cohérents avec la physique qu'on connaissait, alors que pour la première fois, finalement, avec la relativité générale, on peut commencer à le faire. Alors, les premiers modèles qui ont été construits par Friedman ou par Lemaître étaient des modèles où, effectivement, l'univers n'était pas stationnaire, il est en expansion ou en contraction, parce qu'effectivement, la gravité fait que la façon naturelle, c'est soit d'avoir une expansion qui se ralentit, soit au contraire d'avoir une contraction qui s'accélère sous l'effet de la gravité, mais pas un système où les galaxies sont stationnaires. Comme on n'avait pas observé l'expansion, une fois de plus, sur des considérations générales de quel est le modèle le plus simple, Einstein a cherché à construire un modèle qui est le modèle d'Einstein de Sitter, qui était un modèle stationnaire. Enfin, alors, la raison pour laquelle, c'est un peu plus tard, les premiers modèles qu'Einstein a construits avant celui-ci, c'était des modèles stationnaires, et il était forcé, pour obtenir un modèle stationnaire, d'introduire la constante cosmologique. Alors, la constante cosmologique, ça a consisté à modifier les équations de la relativité générale en introduisant une constante qui permettait, de façon un peu arbitraire, de compenser la gravité à grande échelle et donc de faire que le modèle pouvait être juste en équilibre. Alors, c'est une difficulté, c'est qu'il y a un modèle instable, mais ça permettait d'avoir un modèle stationnaire. Bon, dans ce genre de modèle, on note que, comme la relativité générale décrit la gravité comme des effets de la matière sur la géométrie de l'espace-temps, on va lier le contenu de l'univers, en moyenne, à un certain nombre d'autres choses qui sont en particulier la géométrie de l'espace-temps. Et dans cette en relativité générale et en cosmologie relativiste, l'espace, la partie spatiale en particulier de l'espace-temps, n'est pas forcément euclidienne. Donc ça, c'est une question importante, c'était quelle était la géométrie dans laquelle on vivait, à grande échelle, est-ce qu'elle était effectivement euclidienne ou est-ce qu'elle n'était pas? Je vais revenir là-dessus. Tout bêtement, effectivement, si on prend des galaxies suffisamment lointaines dans la partie spatiale de l'univers, est-ce que la somme des angles d'un triangle va vraiment faire 180 degrés ou plus ou moins? En fait, la géométrie non euclidienne, avant qu'elle ne serve comme outil pour la relativité générale, avait assez mauvaise presse au 19e siècle. Elles ont été traitées de mathématiques pour asile psychiatrique par un mathématicien dans cette période-là. Et il y a une anecdote que je trouve intéressante, c'est que Gauss, quand il était jeune, a travaillé sur les géométries non euclidiennes, sans publier d'ailleurs ses résultats, quand il était assez jeune à cette époque-là. Mais le point que je trouve remarquable, c'est qu'il a voulu vérifier si l'idée que la géométrie était forcément euclidienne était une idée naturelle ou non, entre guillemets. Et donc, il a été vérifié autour de Göttingen sur trois montagnes, si, à la précision des mesures qu'on pouvait faire à l'époque, si effectivement la somme des angles d'un triangle faisait effectivement 180 degrés, ce qui était une façon de se dire que la géométrie des mathématiciens découle de celle dans laquelle on vit, et qu'il s'est posé la question de savoir si celle dans laquelle on vivait était effectivement euclidienne ou non. Et il s'est posé plus, au moins autant comme un physicien que comme un mathématicien, ce qui est intéressant. En fait, assez vite, il y a un renversement par rapport à ces principes généraux qui pilotent la cosmologie, et où effectivement, c'est les observations qui, elles, vont immédiatement faire un tri en certains différents modèles et rendre le modèle stationnaire qu'avait essayé de construire Einstein inopérant. C'est la démonstration de l'expansion. Alors ça, c'est donc directement lié au fait que les astronomes ont été capables de se rendre compte que ce qui était appelé des nébulés, tout ce qui était diffus, tout ce qui n'était pas ponctuel, c'était en fait deux types d'objets, et que cette définition purement observationnelle n'était pas suffisante, qu'il y avait effectivement les galaxies extérieures équivalentes à la Voie lactée, formées d'étoiles, et puis des nuages de gaz interstellaires dans la Voie lactée. Et à quel moment ils ont été capables de faire ça? Et bien finalement, quand il y a eu des télescopes suffisamment puissants et avec des sites en termes de l'atmosphère dans laquelle on observait suffisamment bon, qui permettaient de distinguer au moins les étoiles les plus brillantes ou les amas d'étoiles dans les galaxies proches. Alors dès qu'on a eu ça, c'est-à-dire qu'on a identifié les galaxies, on a été capable de commencer à étudier l'homogénéité à grande échelle pour savoir si elle était réelle ou pas, de mesurer la densité moyenne et surtout la cinématique, de voir si tout ça était stationnaire ou ne l'était pas. Et évidemment, Hubble a d'abord commencé, avant d'étudier la loi qui porte son nom, par essayer de vérifier l'homogénéité à grande échelle. Alors il a fait ça en mesurant le nombre de galaxies qu'on voyait quand on va vers des galaxies de plus en plus faibles. Il est assez facile de montrer qu'il y a une relation simple entre le nombre de galaxies qu'on observe jusqu'à une certaine luminosité apparente et la luminosité apparente à laquelle on observe, si l'univers est totalement homogène jusqu'à très grande échelle. Et en fait, il a trouvé, pour au moins jusqu'à la distance à laquelle il était capable d'observer, qu'effectivement, l'univers tendait à être homogène. Donc c'était un pas dans la bonne direction. Il a aussi mesuré, en fait, la densité moyenne des galaxies, qui, si on la ramène à cette unité peu commune de protons par mètre cube, est de l'ordre de 1. C'est-à-dire qu'effectivement, si on moyenne et on disperse complètement la matière des galaxies, on trouve à peu près ça. La précision n'était pas très bonne, c'était plutôt un facteur 10 près, mais le chiffre était à peu près correct, et il avait commencé à établir, ce qui est bien mieux établi maintenant, et je vous dirai comment, l'homogénéité. Mais il a surtout trouvé, en 1929, l'expansion. Et c'est ça qui a, effectivement, été le point qui a permis de mettre sur pied les modèles de type Einstein de Sitter et autres qui sont la base, finalement, de la cosmologie scientifique. Donc à partir du moment où on a établi ce modèle, et cette sur des bases quand même essentiellement théoriques, et l'observation de l'expansion, on entre dans une période qui démarre donc dans les années 30, et qui n'est pas encore tout à fait terminée, qui est une phase où finalement on va tester ce modèle, et je vais revenir sur comment on teste un modèle de ce type-là, et on va déterminer ses paramètres. Et en gros, l'argument que je vais développer devant vous, c'est que ce travail est presque terminé, c'est-à-dire qu'il y a une phase qui aura duré à peu près un siècle, qui est partie de ces modèles et qui aboutit finalement à faire et à déterminer et à répondre aux questions qu'on s'est posées à ce moment-là. Alors juste un petit dessin pour vous montrer la géométrie et l'expansion. Donc si je représente ici un univers qui est un univers à deux dimensions, donc qui est un peu équivalent à un ballon, avec trois galaxies ici, à un certain instant, et puis plus tard, le même univers avec les galaxies qui sont éloignées les unes des autres. On a ici un univers dit fermé, c'est-à-dire que la géométrie de l'espace est courbée de telle façon qu'elle peut se refermer sur elle-même. Donc on a un univers ici à deux dimensions, dont je peux visiter tous les points de la surface, je ne trouverai pas de limite. Et donc, finalement, je peux avoir un univers sans limite, mais fini. Alors, on peut très facilement, mathématiquement, fabriquer la même chose à trois dimensions, c'est-à-dire imaginer qu'on vit dans un espace à trois dimensions qui est refermé sur lui-même, qui a une courbure constante, et dont on peut visiter tous les points sans trouver de limite. Bon, ce qui est un concept, finalement, assez agréable aux physiciens. On a quelque chose qui est fini, et en même temps, qui n'a pas de limite, dont on peut visiter tous les points. Alors la question, c'est de savoir comment on fait pour savoir si on vit dans un univers de ce type. Ben, on voit bien effectivement que si je suis capable de mesurer la géométrie de ce triangle, alors vous voyez que si je prends par exemple une galaxie ici au pôle, une ici et une là, vous voyez que je peux avoir 90 degrés au pôle, 90 degrés ici, puis 90 degrés là, c'est-à-dire que je peux avoir la somme des angles d'un triangle qui fait 270 degrés. Donc clairement, j'ai une façon de mesurer ça si je suis capable de mesurer la géométrie. La difficulté, c'est que cet univers, il évolue. Il est en expansion d'abord, donc les galaxies, elles bougent, mais a priori, si elles ne se déplacent pas trop localement par rapport à leur voisine, la géométrie va rester la même, sauf que le rayon de courbure va changer. Mais plus grave, ces objets, en fait, il faut que je mesure leur distance si je veux réussir à mesurer cette géométrie. Or, leurs propriétés évoluent. Ces galaxies, elles forment des étoiles, elles transforment le gaz en étoiles, les étoiles rejettent du gaz, il y a toute une évolution chimique. Donc, en fait, la luminosité d'une galaxie, c'est absolument pas constant dans le temps. Et donc, je reviendrai dessus. Le grand problème des astronomes dans toute cette période, ça a été qu'ils n'avaient pas ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire des objets de luminosité connus pour baliser l'univers et le mesurer. Et donc, le grand problème, ça a été que les mesures de distance ont toujours été beaucoup trop imprécises pour répondre aux questions qu'on se posait. Mais le principe était bien posé. Donc, les questions intéressantes, c'est la vitesse de l'expansion, qui était mesurée par Hubble, mais qui n'était pas très bien mesurée. Quelle est la géométrie ? Est-ce que l'univers est fini ou infini ? Alors, on peut avoir une courbure positive fermée sur elle-même, l'univers est fini. On peut avoir un univers qui est courbé en selle de cheval, qui est infini, qui a une courbure qui a le signe opposé. Et puis, aussi, est-ce que l'univers est assez dense pour que la gravité arrête l'expansion ? La gravité va ralentir l'expansion. Alors, la question intéressante, c'est finalement, si on l'attend assez longtemps, est-ce que l'expansion va s'arrêter ? Est-ce que l'univers va retomber sur lui-même ? Ce qui pourrait, les gens ont imaginé des univers cycliques, par exemple. Et alors, l'intérêt d'avoir un modèle cosmologique, on peut se poser ces questions dans l'absolu, mais l'intérêt du modèle cosmologique, c'est qu'il relie un certain nombre de ces paramètres. Alors, par exemple, si on ne met pas de constante cosmologique, le fait de savoir si l'univers est euclidien, s'il est fermé ou s'il est ouvert, est directement lié au problème de savoir si l'expansion va s'arrêter ou ne va pas s'arrêter, par exemple. Donc, on voit bien que la même distinction va s'appliquer pour savoir si l'univers est fini ou infini. Donc, ces trois éléments, est-ce que l'expansion va s'arrêter ? Est-ce que l'univers est fini ou infini ? Et quelle est la courbure ? Est-ce qu'il est fermé sur lui-même ? Est-ce que la courbure est nulle ? Un univers euclidien, de la géométrie ordinaire ou pas ? Ces trois paramètres sont très directement liés les uns aux autres. Et on voit bien que c'est finalement la cohérence qui va permettre de tester le modèle. Parce que si on a raison et qu'on mesure ces paramètres, ou bien effectivement, ces différents paramètres vont répondre, non pas de façon indépendante, n'importe quelle courbure allant avec n'importe quel taux d'expansion ne devant pas s'arrêter, on va effectivement voir si, comme le prédit la relativité générale, ces trois quantités sont liées comme elle le prédit. Alors pour faire ce test, ça veut dire qu'il va falloir finalement faire l'inventaire de tout ce qui pèse en quelque sorte, de tout ce qui contrôle la dynamique dans l'univers. Mesurer cette dynamique proprement, c'est-à-dire mesurer l'expansion très précisément, et puis essayer de mesurer la géométrie, ce qui n'est pas le plus facile. Bon, alors, comment on fait cet inventaire ? Ben, cet inventaire, il a commencé avec Hubble, et puis il a continué jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas terminé, mais il n'en est pas très loin. C'est-à-dire qu'on a fait l'inventaire, même si un certain nombre de morceaux de cet inventaire sont identifiés du point de vue de leur effet sur la dynamique de l'univers, mais on ne sait pas exactement physiquement de quoi il s'agit. Alors, il y a d'abord des galaxies qui contiennent des étoiles et du gaz. Bon, c'est la partie la mieux connue, ce qu'on appelle la matière ordinaire. Vous allez voir à la fin que finalement, ce n'est pas la partie qui joue le rôle essentiel. Les galaxies elles-mêmes sont regroupées en amas, eux-mêmes regroupées en superamas. Alors, ce qu'on voit entre les galaxies, par exemple, c'est qu'il y a pas mal de gaz. Il y a du gaz très chaud, qui est à plusieurs millions de degrés, qui rayonne en rayons X. Et les télescopes spatiaux en rayons X ont permis de cartographier ce gaz et d'en mesurer la masse. Alors, on s'aperçoit que, par exemple, dans les amas de galaxies, dans les amas riches, les galaxies ne font qu'une petite partie de la masse. C'est le gaz chaud qui est entre les galaxies qui domine, par exemple. Pour les galaxies qui sont plus isolées et pas dans les amas, c'est pas forcément vrai. Mais, par exemple, dans les amas, c'est une des choses qui a émergé des observations plus récentes et de l'astrophysique qui s'est faite en particulier avec les moyens spatiaux, ça a été qu'effectivement, pour cette matière ordinaire, ce dénombrement, cet inventaire de la masse a amené une partie qui n'était pas a priori forcément attendue. Alors, ce qu'on peut faire quand on a identifié proprement tous ces éléments, c'est les sommets, ce qui fait une certaine détermination de la masse. On peut aussi les peser au sens d'utiliser finalement l'effet de la gravité. Alors, c'est exactement la même chose que ce qu'on utilise pour mesurer la masse des planètes. On utilise la loi de la gravitation, on mesure la constante de la gravité en laboratoire. Et pour les planètes, on regarde l'orbite, on mesure précisément les distances. Là, cette fois-ci, on peut faire tout simplement de la triangulation. Et puis, on détermine la masse du Soleil, par exemple, et on peut, de proche en proche, déterminer les masses d'un certain nombre d'objets. De la même façon pour les galaxies, on regarde les grandes galaxies spirales qui tournent, on regarde la vitesse de rotation par effet Doppler, on connaît leurs dimensions, plus ou moins bien, parce que on ne la connaît qu'avec la précision à laquelle on connaît leur distance, qui n'est pas forcément très bonne, et donc on peut mesurer leur masse telle qu'elle est perçue, telle que le champ de gravité qui est dû à cette masse est perçu par les objets qui sont le plus à la périphérie. On peut faire la même chose pour les amas de galaxies, la masse dans les amas crée un champ de gravité, et la galaxie, les galaxies qui s'éloignent et retombent dessus, en quelque sorte, subissent ce champ de gravité. En regardant le mouvement des galaxies dans un amas, on peut peser l'amas. Alors, il y a un problème qui est apparu très tôt, dès les années 30, c'est quand on compare la somme des éléments qu'on regarde, les étoiles, le gaz, etc., et la masse qu'on mesure par la dynamique de la rotation, ou les mouvements des galaxies dans les amas, ces deux chiffres ne collent pas. Ils ne collent pas par un gros facteur, typiquement un facteur 10. Éventuellement plus pour les amas. Et donc, et en plus, cet effet est plus vrai dans les amas ou à la périphérie des galaxies. Donc ça a conduit à supposer qu'il y avait dans les galaxies ce qu'on appelle des halos de matière noire, qui ont été l'objet d'une longue controverse pour savoir s'ils étaient réels ou non, ou si ça venait de problèmes avec les observations. Donc là, les progrès des observations depuis les années 30 et jusqu'à des périodes récentes, ont progressivement permis de résoudre la controverse et de se convaincre qu'il y avait réellement une composante de matière dite noire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, ce n'est pas des étoiles, ce n'est pas du gaz, et qui faisait une bonne partie de la masse des galaxies. D'une manière générale, donc comme je l'ai dit, le problème, c'est essentiellement le problème de l'échelle des distances. C'est ça qui est la partie la plus délicate et qui a été la plus difficile à résoudre depuis dans une bonne partie du XXe siècle. Quand on veut mesurer la vitesse d'expansion, donc la vitesse d'expansion qu'on appelle la constante de Hubble, elle dépend évidemment très directement de la mesure des distances. Qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure l'expansion de l'univers ou la constante de Hubble ? On mesure la vitesse de récession d'une galaxie par l'effet Doppler, on prend le spectre d'une galaxie et on repère effectivement sa vitesse d'éloignement, et puis on mesure sa distance, et c'est là que la chose est plus difficile, et puis on regarde comment la vitesse d'éloignement varie avec la distance, et on trouve, et ça marche bien, que la vitesse d'éloignement est proportionnelle à la distance. Une galaxie deux fois plus lointaine s'éloigne deux fois plus vite. Par contre, la valeur exacte de la pente est celle qui est difficile à mesurer. Alors cette expansion, donc est-ce qu'elle va continuer ou pas ? Il y a une quantité qu'on appelle la densité critique. Si on connaît la vitesse d'expansion, il est assez facile. En relativité générale, on peut aussi le recalculer, et on trouve pratiquement la bonne réponse en mécanique newtonienne, de dire, bah, après tout, je traite les galaxies comme quand j'envoie une balle en l'air depuis la Terre. Si je l'envoie suffisamment vite, au-delà de la vitesse de libération, elle ne va pas retomber. Si je l'envoie moins vite, elle va retomber. Donc clairement, selon le champ de gravité qui est créé par l'ensemble de la matière dans l'univers, les galaxies vont soit continuer de s'éloigner indéfiniment, en ralentissant, mais en continuant de s'éloigner, soit vont retomber sur elles-mêmes, c'est-à-dire que l'univers va se recontracter. Donc cette densité est bien connue, elle est facile à calculer, à la précision à laquelle on a mesuré la vitesse d'expansion et la densité. Alors ces précisions n'étaient pas très bonnes, mais en gros, la réponse a toujours été la même, parce que l'écart est tellement grand que malgré les variations des mesures successives de ces quantités, il a toujours été vrai que la quantité de la matière ordinaire qu'on voit dans l'univers ne suffit pas à fermer l'univers, c'est-à-dire à faire que les galaxies vont retomber. Et si on croit la relativité générale sans constante cosmologique, le fait qu'on soit dans un univers qui est en expansion indéfinie va avec une géométrie ouverte, non euclidienne, et va avec un univers infini. Donc les astronomes ont cherché à tester ces affaires un peu indépendamment les unes des autres, en considérant que s'ils avaient mesuré un des paramètres, une des quantités, ça leur donnerait la réponse pour les autres, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors par exemple, on représente ici la séparation entre deux galaxies en fonction du temps, et puis les univers fermés, c'est des univers dont on est par là, donc on a une certaine vitesse d'expansion ici, la vitesse d'éloignement de ces deux galaxies, et puis s'il y a cette densité, ça va retomber, c'est des modèles de type Friedmann-Lemaître. Le modèle Einstein de Sitter est un modèle qui, lui, est juste à la frontière entre les deux types de modèles. Donc la géométrie est euclidienne, et puis l'expansion ralentit indéfiniment et finit par s'arrêter, mais l'univers est infini, et l'expansion, la vitesse d'expansion n'arrive à zéro qu'au bout d'un temps infini. Et puis il y a des modèles où effectivement l'expansion ralentit, mais reste finie, même au bout d'un temps infini. Et puis il y a même des modèles éventuellement qui réaccélèrent si on met une constante cosmologique. Alors les modèles de ce type-là avec constante cosmologique ont été ignorés par la communauté assez largement, jusqu'à récemment, parce que cette constante cosmologique, Einstein lui-même avait dit que finalement c'était une de ses erreurs d'avoir réintroduit cette constante dans la relativité générale qui n'en avait pas forcément besoin. Et donc les gens ont travaillé entre ces trois types de modèles qui sont là, jusqu'au moment où des mesures récentes de la constante de Hubble ont montré que finalement ça avait l'air d'être une réaccélération, ce qui a surpris tout le monde. Je reviendrai là-dessus. Et donc on soit éventuellement dans un de ces modèles, ce qui voudrait dire des modèles avec constante cosmologique. Donc dans l'histoire de ces mesures, les gens ont lié les trois propriétés comme s'il n'y avait pas de constante cosmologique jusqu'à ce qu'on découvre, ce qui était bien le but du jeu, que finalement la vitesse d'expansion n'avait pas l'air de coller avec ce qu'on attendait et effectivement imposait de mettre une constante cosmologique, donc finalement de sortir du modèle le plus classique que les gens avaient construit. Alors comment effectivement tout ça a convergé ou est en train de converger ? Ben, la première chose, c'est que ces mesures, je dirais traditionnelles de ces diverses quantités, se sont beaucoup améliorées depuis 20 ans grâce à de nouveaux moyens observationnels. En quoi ces nouveaux télescopes et ces moyens observationnels ont amélioré tout ça ? Ben, c'est essentiellement par l'amélioration de l'échelle des distances. Alors ce que j'ai écrit là, c'était qu'effectivement, l'amélioration de la sensibilité permet de supprimer des barreaux à l'échelle. Traditionnellement, on mesure les étoiles les plus proches par de la triangulation. Puis on a certaines étoiles qui s'appellent les céphéides, qui sont des étoiles dont la luminosité varie périodiquement, une période qui se compte en jours ou en semaines, et dont on sait que la luminosité absolue, la quantité d'énergie qu'elle rayonne, est directement liée à la période. Donc effectivement, si on observe une de ces étoiles suffisamment lointaine, dans une galaxie extérieure, et qu'on mesure la période, on connaît la luminosité absolue, donc on a une façon de déterminer la distance. Et puis après, on regarde un certain nombre de galaxies, dont on mesure les distances, on connaît les propriétés de ces galaxies, ou d'objets les plus lumineux dans ces galaxies, et quand on regarde des galaxies qui sont dans les amas, on recale cette fois-ci la distance des amas à partir de celle des galaxies. Et donc on a effectivement, typiquement, trois ou quatre systèmes emboîtés les uns dans les autres, qui sont raccordés par quelques observations. Et donc les erreurs de chacun de ces systèmes s'accumulent, et en général, l'incertitude au total est assez grande. Par exemple, la première détermination par Hubble, en utilisant les céphéides, c'est un exemple typique où les astrophysiciens classent dans une classe d'objets des objets qui ont des propriétés similaires, et on a découvert qu'il y avait deux types d'étoiles céphéides, une classe beaucoup plus lumineuse que les autres et une classe moins lumineuse, et que celles qu'on croyait voir être les mêmes que celles qu'on avait près du Soleil dans la Voie lactée et qu'on observait dans les galaxies extérieures étaient les mêmes, n'étaient effectivement pas les mêmes, et il s'est trompé par pratiquement un facteur 10 sur la distance des galaxies les plus proches. Ça a été rectifié assez vite, et après on est entré dans un régime où on est resté, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé à faire de l'astrophysique, l'incertitude sur la constante de Hubble était d'à peu près un facteur 2, et je dirais qu'il y a 5 ans, l'incertitude était toujours d'un facteur 2. Donc ça n'a pas progressé très vite. L'apparition du télescope spatial et des grands télescopes de la classe 8-10 mètres, comme le VLT ou le Keck, dont a parlé Daniel Rouen hier, ont permis finalement de résoudre ce problème en utilisant qu'un tout petit nombre d'éléments pour mesurer les distances. Alors pour ça, il faut être capable de mesurer des objets assez proches et de prendre les mêmes objets et de les utiliser comme indicateurs de distance quand ils sont très loin. C'est vrai pour le télescope spatial avec les céphéides. Le télescope spatial est capable de détecter les céphéides dans des galaxies qui sont dans les grands amas les plus proches comme Virgo. Donc, on peut caler directement la distance des amas comme l'amas de Virgo. Et puis on utilise des supernovae de type 1 Et là, avec beaucoup de statistiques, il y a eu des télescopes qui ont été dédiés à l'observation de ces explosions d'étoiles à la fin de leur vie, qui ont permis effectivement aussi de caler l'échelle des distances beaucoup mieux, et qui maintenant ont conduit à une valeur de la constante de Hubble, la vitesse d'expansion, qui est établie typiquement à 10% près. Bon, un autre élément qui était important, que je ne détaillerai pas beaucoup, c'est l'accès à l'ensemble du spectre électromagnétique. Je vous en parlerai surtout pour le rayonnement dans l'univers, où ça a été un élément très important, mais je vous ai mentionné par exemple le gaz chaud dans les amas, mesuré en X. Je reviens à la mesure de la masse. Si on a des télescopes suffisamment sensibles et qui ont un grand pouvoir de résolution, on peut faire quelque chose de complètement nouveau, dont l'idée existe depuis que la relativité générale a été établie. La relativité générale dit que la lumière est aussi déviée par les champs de gravité. C'est une des premières prédictions importantes de la relativité générale, et c'est la première à avoir été immédiatement vérifiée. Eddington a organisé, pour une éclipse de soleil qui a eu lieu en 1919, une expédition qui a été mesurée à un certain nombre d'étoiles qui se projettent près du disque solaire pour vérifier effectivement que la lumière de ces étoiles était bel et bien déviée par le champ de gravité du soleil. Et il a trouvé exactement ce qui était prédit par la théorie générale, qui est une démonstration assez spectaculaire. Il est intéressant d'ailleurs de noter que quand on est venu dire à Einstein que l'expédition de Lord Eddington avait donné une confirmation spectaculaire de la relativité générale, et que quelqu'un qui était présent lui a dit « Et si on vous avait annoncé que Lord Eddington n'avait pas trouvé la déviation que vous aviez prédite, quelle serait votre réaction ?» Et la réaction d'Einstein est assez caractéristique de l'état d'esprit dans lequel il avait conçu la relativité générale. Il a dit qu'il aurait été désolé pour Lord Eddington, parce qu'il était convaincu qu'à ce moment-là, c'est que l'observation n'aurait pas été correcte. Tellement les arguments fondamentaux de physique fondamentale, de beauté de la théorie, etc., lui paraissaient plus importants qu'une mesure. Alors on peut essayer d'utiliser cette déviation des rayons lumineux pour déterminer la masse des objets astrophysiques, et en particulier pour chercher si vraiment ces halos de matière noire dans les galaxies ou dans les amas existent. Et donc, ça fait très longtemps que les gens ont dit qu'il y aura des effets dits de lentilles gravitationnelles, où effectivement, un amas de galaxies joue le rôle d'une lentille pour les objets qui sont derrière, et va les distordre et éventuellement les renforcer. Alors voilà par exemple une galaxie qui est derrière, vous avez un certain nombre de galaxies ici qui sont dans un amas, c'est une image du Hubble Space Telescope, et vous avez ici des images très déformées de galaxies qui sont derrière. Et ça a commencé à être observé au sol, marginalement, il y a un nombre d'années. Et maintenant, avec les grands télescopes comme le VLT ou le Space Telescope, vous voyez qu'ici, il y a des démonstrations spectaculaires de cet effet. Alors, si je regarde un amas, une galaxie, c'est une image à plus grand champ d'un amas qui est dans le catalogue d'Abel, qui est Abel 2218. Et vous voyez la galaxie centrale de l'amas, vous voyez beaucoup des galaxies de cet amas, donc l'amas est par ici. Et vous voyez effectivement des galaxies qui sont derrière, qui sont distordues. Vous voyez ici une autre composante de cet amas. Et très clairement, en fait, la distorsion de ces images trace, et on peut le faire très précisément sur un très grand nombre de galaxies, la distribution de la matière qui distord les rayons lumineux dans l'amas de galaxies. Et ce qu'on trouve effectivement, c'est que la masse dans l'amas de galaxies est effectivement beaucoup plus grande par cette distorsion, qui est un effet finalement, on voit la matière noire, entre guillemets, par la distorsion des galaxies qui est derrière. Donc c'est une des démonstrations spectaculaires de la façon dont les progrès dans la résolution des télescopes a d'un seul coup permis de répondre à cette question qui avait à peu près 70 ans. Alors il y a un autre morceau de la cosmologie dont je vais peu parler, qui est important, mais qui est un peu la limite entre l'astrophysique extragalactique et la cosmologie, qui est l'étude des objets, et en particulier de la formation des premières galaxies. Et là, la question consiste à aller chercher des objets qui sont le plus loin possible, de façon à essayer de voir la première génération de ces objets. Alors c'est lié à quelque chose qui est aussi, quelle est l'histoire de la formation des étoiles? Après tout, on voit beaucoup d'étoiles dans une galaxie comme la nôtre, donc la question c'est quand est-ce que le gros de ces étoiles se sont formées? Et puis même, une autre question, c'est qu'on sait que l'énergie, on sait que les éléments lourds qui forment les planètes, qui nous forment nous, etc., ont été constitués par la fusion de l'hydrogène en éléments plus lourds dans les étoiles des générations précédentes. que c'est ça l'énergie, c'est ça la source d'énergie, cette fusion thermonucléaire dans les étoiles, c'est ça la source d'énergie du Soleil et des étoiles, et donc que toute cette énergie a été rayonnée. Donc si je comptabilise tous les éléments lourds que je vois dans les étoiles, je sais qu'il y a une certaine quantité d'énergie produite, et une bonne question, c'est où est-ce qu'elle se trouve ? Après tout, la physique nous dit que l'énergie est conservée, donc elle doit toujours être quelque part dans l'univers. Donc dans la radiation qui remplit l'univers, on doit retrouver cette énergie. Donc c'est une autre question intéressante. Alors, pour ça, on utilise effectivement l'ensemble de ces moyens dont j'ai déjà parlé. On utilise effectivement les grands télescopes de la classe 8 mètres. Alors, j'ai mis ici, par exemple, un des télescopes du VLT au Chili. Là, on voyait ici les bâtiments dans lesquels les quatre télescopes de l'ESO sont abrités. Ici, l'observatoire infrarouge ISO de l'Agence spatiale européenne, qui lui a permis d'observer toute la radiation infrarouge qui n'est pas accessible depuis le sol. Et puis ici, l'observatoire XMM, aussi de l'Agence spatiale européenne, qui permet d'observer les rayons X. J'aurais pu en mettre d'autres, il y en a une panoplie qui couvre l'ensemble du spectre électromagnétique. Et puis évidemment, le Hubble Space Telescope, qui est ici représenté au moment où il a relâché par la navette. Alors, j'ai mis ici l'image du champ profond du télescope spatial, qui a été une des observations spectaculaires faites il y a une dizaine d'années par le télescope spatial, qui a posé pendant très longtemps sur un champ où il y avait assez peu autant que possible très peu d'objets proches, de façon à essayer d'aller voir comment les galaxies évoluaient, comment le taux de formation d'étoiles dans les galaxies évoluait, etc. Et donc on voit ici un très grand nombre d'objets qui sont presque pratiquement toutes des galaxies, il n'y a pratiquement pas d'étoiles là-dedans. Et effectivement, on a découvert que le taux de formation d'étoiles dans les galaxies, entre aujourd'hui et le moment où l'univers était à peu près deux fois plus petit, changeait par un gros facteur. C'est-à-dire que les mêmes galaxies avaient un taux de formation d'étoiles qui était presque 10 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Alors, dans cette évolution, je vous montre ça aussi parce que c'est une image spectaculaire du télescope spatial, l'idée que les galaxies se forment un jour, comme un gros paquet de gaz qui s'est rassemblé sous l'effet de sa propre gravité, forme des étoiles, et que tout ce système évolue comme un système fermé, est une idée qui a été totalement abandonnée. Il est évident, sur la base en particulier des observations du télescope spatial et un certain nombre d'autres évidences aussi, que par exemple les fusions de galaxies, les objets qui se forment d'abord, c'est ce que dit la théorie, mais c'est bien vérifié par un certain nombre d'observations, sont des objets plus petits, et que les grosses galaxies sont formées par des fusions successives d'objets plus petits, et ça c'est simplement une image spectaculaire de deux galaxies en collision et qui ont vocation à fusionner à terme. Je vous montre simplement, pour vous dire qu'on a observé le ciel aussi dans l'infrarouge lointain, des champs qui ont été observés. Donc ça, c'est la Voie lactée, c'est une image de tout le ciel. Si on va observer dans les champs les régions les plus sombres, où la Voie lactée n'est pas trop brillante, on détecte une quantité de galaxies qu'on voit dans l'infrarouge. On a découvert qu'effectivement, les images dans l'optique avaient raté une bonne partie de l'action de formation d'étoiles. Et quand on fait le bilan total de la formation d'étoiles, il y a les deux tiers de l'activité en fait, qui est plutôt vue dans ces longueurs d'onde-là. C'est juste pour illustrer le fait que quand on fait le bilan de la radiation émise par toutes les étoiles dans l'histoire de l'univers, c'est pareil, c'est quelque chose, les gens disaient qu'il faudrait essayer de le faire, et jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, simplement, on n'avait pas les moyens technologiques de le faire. Une combinaison du télescope spatial, du télescope ISO et de Kobe dont je vais parler, a permis maintenant de faire le bilan de toute la radiation qu'on voit, qui est la radiation moyenne dans l'univers. Et alors, ce qui est remarquable, je vous ai déjà dit que la matière ordinaire dans les galaxies représentait qu'une petite fraction de la matière totale, je vous parlerai du bilan total après, ben on voit que la radiation, par toutes les étoiles, de toutes les générations d'étoiles dans le passé, ça ne représente qu'à peu près 5% de la radiation de l'univers. Donc une fois de plus, une galaxie comme la nôtre, les étoiles qu'on voit, la matière qui nous forme, etc., ne pèse pas très lourd, entre guillemets, c'est-à-dire qu'affecte peu la dynamique de l'univers, c'est pas ça qui domine. Et puis en termes de radiation, c'est pas ça qui domine non plus, c'est-à-dire qu'on est qu'un épiphénomène sur des choses qui sont finalement ce qui domine l'univers et qui est essentiellement d'autres composantes qui sont ces composantes de matière noire ou de constantes cosmologiques. Alors par exemple, pour la radiation, 95% de l'énergie est concentrée dans le domaine micro-ondes. C'est un rayonnement très uniforme, on voit pas l'équivalent des galaxies, etc. Il n'y a pas de source. C'est de la radiation qui vient de partout. Et je vais rapidement vous raconter l'histoire du rayonnement de fond cosmologique, puisque 95% du rayonnement de fond cosmologique, l'histoire de sa découverte et de ce qu'il implique est une très bonne illustration des relations qu'entretiennent la physique fondamentale qui permet de faire des prédictions précises et les observations en cosmologie. Alors, on sait que l'univers contient à peu près 75% d'hydrogène, à peu près 24% d'hélium, tout le reste, une fois de plus, les éléments qui forment les planètes, etc., représentant typiquement 1%. Et une des difficultés, c'est que dans les années 30, quand était établie la physique nucléaire, très rapidement, on a compris qu'effectivement, la fusion thermonucléaire était la source d'énergie des étoiles. Donc ça, c'était un pas très intéressant dans la compréhension astrophysique. Et quand on a fait les modèles, on s'est rendu compte que la quantité d'hydrogène transformée en hélium pour expliquer la fusion des étoiles n'était qu'une petite partie de ça. Ces éléments-là étaient effectivement formés dans les étoiles, carbone, azote, oxygène, silicium, etc., mais qu'il n'y a qu'une petite fraction de l'hélium qui est formée comme ça. En plus, on observe du deutérium qui est détruit dans les étoiles immédiatement pour créer des éléments plus lourds, et donc le peu de deutérium qu'on observe est complètement inexplicable dans ce modèle. Donc, en 1949, il y a trois physiciens, dont deux des grands noms de la physique nucléaire, qui ont proposé une hypothèse qui était extrêmement hardie, qui est, je pense, une démarche qui est du même degré intellectuellement que ce qui a été fait par Einstein au début de la relativité générale, qui a été de dire, bon, faisons l'hypothèse que l'univers, non seulement est en expansion, donc a été beaucoup plus dense dans le passé, mais est passé par une phase. Si vous regardez le mouvement des galaxies, vous voyez quand l'univers était typiquement 10 ou 20 fois plus petit, les galaxies commencent à se toucher. Donc clairement, si on va vers un univers qui est 20 ou 30 fois plus petit, on aboutit déjà à quelque chose qui devrait être relativement uniforme. Et on peut se dire que si on va beaucoup plus loin, donc on a du gaz, cette fois-ci on n'a plus d'étoiles, il n'y a plus de galaxies, tout ça est fusionné ensemble. Et alors on peut essayer d'imaginer qu'on va très très loin et que l'univers a pu être très dense et très chaud en suivant la même loi d'expansion. Donc c'est une extrapolation sauvage qui consiste à extrapoler dans le passé l'expansion jusqu'au moment où l'univers avait une température d'un milliard de degrés. Et puis on se dit, bon, bah maintenant, si je veux expliquer le deutérium et l'hélium, en particulier l'hélium, donc, pourquoi il y a 25% de l'hydrogène qui s'est transformé en hélium, si ça ne peut pas être dans les étoiles, je suppose que c'est au début de l'univers. Et donc on va faire un raisonnement qui est un raisonnement de physique qui est basé sur extrêmement peu d'hypothèses, le modèle cosmologique basé sur la relativité générale, le modèle standard dans lequel on travaille, et puis la constatation que l'hélium ne peut pas avoir été synthétisé à partir d'hydrogène dans les étoiles. Alors on connaît la température à laquelle ça doit se produire, c'est la physique nucléaire qui nous le dit, c'est 1 milliard de degrés. On connaît l'âge de l'univers à ce moment-là, c'est la réalité générale qui nous le dit, le modèle cosmologique nous dit que quand c'était 1 milliard de degrés, l'univers avait à peu près 3 minutes. C'est l'origine du titre du bouquin de Weinberg, les 3 premières minutes de l'univers, en fait, parce que c'est le moment où ça se produit. Et puis, donc, on connaît la densité. Il faut finalement que la probabilité que des protons et des neutrons se rencontrent pour former de l'hélium soit relativement élevée pour transformer 25% d'entre eux en hélium. Et donc, on connaît la densité. On connaît la densité aujourd'hui. Donc, on connaît le facteur d'expansion. Et comme on sait, toujours dans le modèle standard, que la température décroît de façon inversement proportionnelle au facteur d'expansion, on peut calculer la température moyenne de l'univers aujourd'hui. Alors, est-ce que ça a un sens? C'était la question. Donc, le facteur d'expansion, c'est 200 millions. C'est beaucoup. C'est un gros facteur. C'était une extrapolation sauvage. La densité était 200 millions de fois plus forte qu'aujourd'hui. La température était 1 milliard fois plus grande, donc la température était typiquement 5 degrés. Donc la prédiction, c'est que la température de l'univers aujourd'hui, ça doit être 5 degrés. Alors, ça veut dire quoi que la température soit 5 degrés absolue, c'est-à-dire moins 268 degrés? Mais ça veut dire que la radiation qui était en équilibre avec cette matière qui a fusionné l'hélium. Et puis ça devait être très près de l'équilibre, et donc on sait... On sait ce que c'est qu'une radiation en équilibre thermique parfait, hein, c'est un spectre de Planck, on sait ça depuis le début du siècle, c'est la mécanique quantique. Et donc, on doit trouver un rayonnement à quelques degrés Kelvin dans le domaine micro-ondes. Alors, Penzias et Wilson, en 1965, ont découvert ce rayonnement. Ils ont découvert un rayonnement qui avait l'intensité qu'il fallait pour que ce soit non pas 5 degrés, mais 2,7 degrés, ce qui est la précision à laquelle ce calcul était fait, aussi bon que ça pouvait être, et qu'on voyait identique dans toutes les directions. Donc ça ressemblait à la prédiction du modèle cosmologique standard quand on lui associe la production de l'hélium. Alors l'étape suivante, ça consistait à vérifier que c'est une fonction de Planck, c'est-à-dire que ce rayonnement qui était observé dans le domaine radio, on pouvait observer du sol, ils ont observé ça en testant des antennes à Bell Labs, où ils détectaient un bruit dans leurs antennes, des tests de télécommunication, qui était supérieur à celui de leur préampli, tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Et donc, ils ont fini par effectivement se rendre compte et démontrer que ce bruit venait du ciel et venait de toutes les directions du ciel. Et donc, on sait que le maximum devait être aux environs d'un millimètre. Alors, est-ce que vraiment il était aux environs d'un millimètre ? On a mis 25 ans à le vérifier, parce que mesurer un rayonnement absolu, surtout à un millimètre, où l'atmosphère devient opaque, c'est pas simple. En fait, il faut aller hors de l'atmosphère, et puis en plus, il faut refroidir tout l'équipement de façon, effectivement, à ce que l'équipement, l'instrument, ne rayonne pas plus que ce qu'on veut mesurer. Et donc, le satellite Kobe, qui a été lancé par la NASA en 89, était destiné à faire cette mesure. Alors, c'est un petit satellite cryogénique qui emportait un réservoir d'hélium liquide, premier satellite à avoir emporté un réservoir d'hélium liquide dans l'espace, et donc qui était destiné à mesurer le rayonnement cosmologique. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de courbes, mais je vais quand même vous en montrer une, parce qu'elle est tellement spectaculaire que... En 1990, John Mather, qui était le principal investigateur de cette expérience, donc vous voyez un certain nombre de mesures ici, qui sont des mesures dans le domaine radio. Les mesures de Penzias et Wilson, et quelque part par ici. Et vous voyez les tout petits points rouges que vous pouvez peut-être à peine distinguer du trait, ici. C'est les mesures du satellite Kobe. Et la prédiction, la fonction de Planck qui était prédite, avec son maximum ici vers un millimètre, c'était celle-là, c'est le trait qui est en dessous. Alors les mesures sont indistinguables à cette échelle du trait. En fait, l'écart par rapport à une fonction de Planck, et pour l'instant n'a pas été mesuré, il est inférieur à 100 millième. C'est une mesure qui, pour un astrophysicien, est assez bluffante, si vous me passez l'expression, parce qu'en général, on est plutôt en train de se battre à faire des mesures à des facteurs 2 près ou à 30% près qu'à mesurer à un 100 millième près. Et là, on a une prédiction très spécifique et très forte pour le modèle standard de Big Bang et qui est mesurée avec une extrême précision. Ça, c'est typiquement une expérience de physique. Le satellite Kobe était destiné à mesurer non seulement le spectre, mais il était censé mesurer aussi pour savoir si ce rayonnement était complètement homogène ou bien s'il avait des petites fluctuations. Alors, on voit des tas de structures dans l'univers, on voit les galaxies, on voit les amas de galaxies. Et donc, le modèle standard, il dit aussi que le modèle le plus simple, c'est que ces structures se sont formées sous l'effet de leur propre gravité avec les petites inhomogénéités, essentiellement des fluctuations quantiques, qui ont émergé de l'univers primordial. Et donc, on devrait voir, sur le fond cosmologique, ces petites perturbations qui sont, finalement, la source de la formation de toutes les structures, de toutes les galaxies. Alors voilà la carte tout le ciel qui a été obtenue par Kobe. Entre les parties les plus basses là, en rouge et les parties les plus hautes en bleu, il y a des fluctuations qui font à peu près un 100 millième, c'est un autre 100 millième. C'est des inhomogénéités sur le ciel, donc c'est très très homogène. Et la prédiction du modèle pour la formation des structures, c'était justement que l'amplitude des fluctuations devait être d'à peu près un 100 millième. En fait, entre les prédictions de la théorie et ça, il y a à peu près un facteur 2, ce qui montre que la théorie de formation des structures, quelque chose de plus compliqué, n'est pas parfaite. Mais par rapport, une fois de plus, à une prédiction qui a été faite, on se retrouve avec cet argument de cohérence, c'est-à-dire qu'il y a un tas d'observations qui, a priori, ne seraient pas reliées entre elles, sauf par le modèle cosmologique global, et qui semble bien, effectivement, faire coller la totalité. Alors, la découverte de ces inhomogénéités, elle a ouvert la voie à un nouvel outil observationnel. Parce qu'il y a des prédictions très, très précises sur ces fluctuations qui peuvent être faites dans le cadre du modèle cosmologique standard. En fait, si on est capable de les mesurer avec suffisamment de finesse, de résolution angulaire sur le ciel, et suffisamment de précision, on est capable de tester l'ensemble des paramètres cosmologiques parce qu'ils ont tous une certaine influence sur ces... Alors, il y en a un qui est le plus évident et qui est celui qui est le plus difficile à mesurer, sur lequel on avait pratiquement aucune mesure directe, c'est la géométrie. Finalement, ces fluctuations, donc ce rayonnement, il nous parvient du moment où l'univers est devenu transparent pour cette radiation, donc quand il était à peu près 1000 fois plus petit, donc un milliard de fois plus dense, donc c'est une période qui était là aussi extrêmement reculée. Et selon que l'univers est un univers euclidien, alors ça a été représenté ici comme un morceau plat, on va avoir des structures qui, sur le ciel, devraient avoir cette allure-là, ça c'est un modèle. Si l'univers a cette géométrie en selle de cheval, ouvert, infini, on a des structures qui sont finalement plutôt plus petites, avec les taches rouges sont plutôt un peu plus petites. Puis vous voyez que si au contraire vous avez un univers comme celui qui était dessiné sur le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui est un univers fermé sur lui-même, qui est schématisé ici par cette espèce de bout de sphère, les structures sont plus grandes. Donc, en mesurant la taille des structures typiques qu'on voit, on peut savoir quelle est la géométrie de l'univers. Et c'est lié au fait que finalement, on a une espèce de règle étalon qui a été posée par nous, qui a été posée pour nous sur le ciel, dans l'univers lointain, par un mécanisme bien compris, qui est simplement la propagation du son dans ce milieu, dans les inhomogénéités. C'est à elle qu'on doit ces structures particulières. On connaît la température, donc on connaît très précisément la taille physique de ces structures. Donc on est en train de faire de la triangulation qu'on n'arrive pas à faire avec les galaxies, avec quelque chose qui est beaucoup plus loin. Donc on a quelque chose, finalement, un outil beaucoup plus puissant et beaucoup plus précis pour mesurer la géométrie. Alors, depuis les mesures Kobe, depuis 10 ans, il y a beaucoup d'expériences qui ont été préparées pour mesurer ça. Il y a des expériences au sol avec des techniques de type radio qui sont à haute altitude. Il y en a une au pôle sud, il y en a une dans le désert d'Atacama, là où va être installé le projet ALMA, le grand projet radio que Daniel Rouen a mentionné hier. Il y a des ballons. Je vais vous parler des résultats, en particulier de l'expérience la plus spectaculaire, qui est l'expérience Boomerang, qui a volé dans l'Antarctique. Il y a deux autres expériences, une expérience qui a volé en Antarctique, une expérience française, une autre expérience américaine. Et puis, il y a deux satellites en préparation. Un satellite avec des techniques radio, parce que ce rayonnement, vous avez vu qu'il démarre du domaine radio, c'est là où Penzias et Wilson l'ont détecté. Et puis là où son maximum d'intensité, c'est le domaine micro-ondes. Donc vous voyez qu'on mélange deux types de techniques, soit des techniques radio, soit des techniques qui utilisent des détecteurs refroidis à très basse température, des bolomètres. Et donc ça, c'est le satellite Planck. Donc le satellite MAP a été lancé il y a quelques semaines. Et le satellite Planck, sur lequel on travaille, sera lancé en 2007 et devrait faire une mesure beaucoup plus précise. Alors, l'expérience Boomerang, c'est une expérience qui a été lancée en Antarctique, qui a fait tout le tour de l'Antarctique et qui a observé le fond cosmologique pendant 10 jours. Alors, vous voyez, c'est l'expérience sous son ballon et ça, c'est le mont Erebus. Ça, c'est le lancement. Alors, vous voyez que dans ce genre de choses, il faut de la technologie pour les détecteurs. Il faut aussi de la technologie lancer des ballons stratosphériques en Antarctique, qui vont faire le tour du vortex polaire pendant 10 jours et être récupérés, ça demande aussi de la technologie, qui n'est pas de la technologie de laboratoire, qui est de la technologie ballon des agences spatiales, ou le lancer en Arctique, comme ça a été fait pour l'expérience Archéops au mois de janvier dernier. Ça demande de la technologie, cette fois-ci, dans le cas de l'expérience Antarctique, c'est la NASA, dans le cas de l'expérience Arctique, c'est le CNES. Et voilà la carte. Et vous pouvez voir qu'elle a un air de famille avec celle de tout à l'heure, elle est dessinée à peu près à la même échelle, délibérément. Et en fait, quand vous regardez la taille de ces structures, vous trouvez le cas euclidien. Ça ne doit pas être par hasard. Alors, on peut faire ça de façon plus quantitative, je passe dessus. Et donc, on peut essayer de déterminer, à partir de ces mesures, indépendamment de toutes les autres mesures qui sont faites traditionnellement, tous les paramètres globaux de l'univers, c'est-à-dire la quantité de matière ordinaire, la quantité de matière noire, la constante de Hubble, la géométrie euclidienne, ou non, et puis la constante cosmologique, dont des mesures sur les supernovas avaient l'air de dire qu'il fallait la réintroduire. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes ces quantités, alors je ne veux pas... la quantité de matière ordinaire, par exemple, ce que dit l'expérience sur le fond cosmologique, c'est que c'est un facteur 2, et de ce qui est mesuré, et de ce qu'il faut pour faire la quantité d'hélium. Donc, pour l'instant, c'est un facteur 2, ça colle à un facteur 2 près, la précision n'est pas meilleure que ça. La quantité de matière noire est déterminée à peu près à 10% près. La constante de Hubble n'est pas très bien déterminée, mais elle donne la même valeur. Elle est déterminée à peu près à 10% près dans les deux cas. Les deux valeurs sont, enfin, 10% pour les mesures avec les supernovae et les éphéides, un peu plus pour la mesure avec le fond cosmologique. Et puis la fameuse constante cosmologique, ben, il faut bel et bien la mettre, parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de matière noire, il n'y a pas assez de matière ordinaire pour rendre l'univers euclidien. Et le fait que l'univers réaccélère, qui avait l'air d'imposer une constante cosmologique, ici, la géométrie impose une constante cosmologique. Donc, de deux façons complètement différentes, on retombe sur la même conclusion, et donc l'aspect cohérence de toutes ces observations indépendantes qui finalement collent dans le cadre d'un modèle, parce que si on n'avait pas le modèle de la relativité générale, on ne pourrait pas faire ça, est un élément essentiel. Alors, par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, pas détailler ça beaucoup, mais le satellite Planck qu'on est en train de construire devrait réussir à faire cette mesure beaucoup plus précisément. Et donc, en fait, on devrait arriver à mesurer tous ces paramètres avec le fond cosmologique à des précisions qui sont une fraction de pourcent. Alors ça, c'est ce que les agences spatiales appellent une vue d'artiste du satellite Planck. On l'a presque mieux ici. Donc, c'est un télescope assez grand, hein, qui fait presque 2 mètres de diamètre. Donc, l'ensemble du satellite ici, le panneau solaire, là, qui est représenté de façon un peu plus réaliste ici, c'est à peu près 4 mètres de diamètre. Donc c'est un gros objet qu'on va installer à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres du côté opposé au Soleil, de façon à ce que, quand son panneau solaire est tourné ici vers le Soleil, vers la Terre et la Lune, du côté où il observe, il n'y ait plus aucun objet chaud et on puisse effectivement faire notre mesure. Alors ça, c'est la mesure qui a été faite par le satellite Kobe, et ça, c'est une simulation du même ciel vu par le satellite Planck, c'est juste pour illustrer le degré de finesse qu'on va réussir à obtenir. Et donc on arrive aujourd'hui à ce qui me semble être la fin d'un cycle qui a démarré avec la construction des premiers modèles scientifiques d'univers à partir de la relativité générale. Où effectivement, on avait identifié cette liste de questions que j'avais mis au début et dont je vous ai parlé dans tout cet exposé. Et il est vraisemblable que d'ici 10 ans, après le vol du satellite Planck, on aura déterminé l'ensemble des paramètres globaux de ce modèle avec une précision meilleure que le pourcent. Approche le dixième de pourcent pour un certain nombre d'entre eux. Qui sont des mesures qui ressemblent, comme je l'ai déjà dit, plus à des mesures de physique qu'à des mesures traditionnelles d'astrophysique. Alors, une première question que je vais poser ici, qui est trop de paramètres, point d'interrogation. En fait, je rapproche ce modèle standard cosmologique de ce que les physiciens des particules appellent le modèle standard, qui est finalement un modèle qui rend compte de façon remarquable de l'ensemble des interactions électromagnétiques, interactions faibles, interactions fortes, de toutes les particules qu'on a vues dans les accélérateurs, mais qui comporte, je crois, 19 paramètres, qui ont été très bien déterminés, mais dont la théorie ne dit pas pourquoi ils ont ces valeurs-là, et comment ils sont reliés entre eux. Alors, du côté de la cosmologie, il y a un certain nombre de paramètres qui sont reliés entre eux, et là, on a constaté avec plaisir que, effectivement, la géométrie, la vitesse d'expansion et la quantité de matière, tout ça rentre dans un modèle cohérent. Mais par contre, il y a un certain nombre d'autres paramètres. D'abord, pourquoi au moins un de ces paramètres, quand il fixe les autres, a la valeur qu'il a? Et puis pourquoi la quantité de matière est répartie de la façon dont elle est répartie entre la quantité de matière ordinaire, baryonique, la matière noire qu'on voit dans les halos de galaxies, et cette constante cosmologique qu'on peut interpréter éventuellement comme l'énergie du vide en physique des particules, mais que la physique des particules pour l'instant n'arrive absolument pas à expliquer en termes d'ordre de grandeur. Donc on est face à un problème en se disant, ben, pour aller plus loin et faire de la cosmologie scientifique, on aimerait finalement avoir quelque chose qui nous relie un peu ces choses entre elles, de la même façon que la physique des particules essaye d'aller à une étape suivante. Alors, une des choses qu'on peut faire, au point de vue observationnel, c'est d'essayer de détecter directement la matière noire pour voir ces fameuses particules. Alors ça, c'est déjà en cours. Les gens essayent de les détecter. Elles ont une interaction très faible avec la matière ordinaire, mais pas nulle. Et donc, on essaye de détecter avec des gros cristaux refroidis à très basse température, typiquement moins d'un dixième, approchant d'un centième de degré absolu, l'interaction de certaines de ces particules qui nous traversent sans arrêt, qui sont celles du halo sombre de notre galaxie. Et pour les détecter, il faut se protéger des vibrations, des rayons cosmiques, etc. Donc c'est des expériences qui se font dans les tunnels soit au tunnel du Fréjus, soit au tunnel du Canfranc, il y en a deux. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais on peut espérer qu'effectivement, un jour, ces expériences, une expérience de laboratoire, en quelque sorte, souterrain, nous donneront une indication sur la masse et le nombre de ces particules. Puis on peut se dire que finalement, ces questions sont complètement imbriquées avec la physique fondamentale. Et que la physique fondamentale se bat depuis que le modèle standard de physique des particules qui a unifié interaction électromagnétique, interaction faible et interaction forte ensemble, ce problème, c'est comment unifier ces trois forces avec la gravité. Comment réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale. C'est le grand problème de la physique fondamentale. Alors, il y a une théorie des supercordes qui est un des espoirs de résoudre ce problème, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore complètement concrétisé. On se dit que si effectivement la physique fondamentale aboutit à une solution, une des façons de la tester, ça va clairement être par ses implications cosmologiques. Inversement, on sait qu'on voit une constante cosmologique qui doit avoir quelque part une source dans la physique. Et donc, la cosmologie pose directement une question à la physique fondamentale qui est l'interprétation de la constante cosmologique. Donc, on voit effectivement qu'on peut espérer, quand on va avoir fini de mesurer ces paramètres, démarrage d'une nouvelle étape, qui est une nouvelle étape qui ne peut que démarrer avec un progrès probablement, un pas qualitatif de la physique fondamentale, comme ça l'a été au début du siècle avec la relativité générale, qui serait finalement une théorie qui réconcilierait la relativité générale et la mécanique quantique et qui permettrait d'aller un cran plus loin, aussi bien en physique fondamentale qu'en cosmologie. Et donc on peut se dire, en terminant, qu'il est probable que ce nouveau paradigme, s'il émerge, va conduire à de nouvelles prédictions et va demander de nouveaux moyens d'observation. Alors, ces moyens d'observation, vous allez me dire, c'est difficile de les connaître vu qu'il n'y a pas de prédiction pour l'instant. Je vous en ai cité un, quand même, qui est de chercher à détecter directement les particules de matière noire. Il y en a un autre, et je vais terminer là-dessus. Dans ce qui nous provient de l'univers, on essaye d'accéder à l'histoire de l'univers dans sa phase la plus primordiale, en regardant certaines observables qui ont été le moins possible affectées par tout ce qui s'est passé depuis. Il se trouve que les inhomogénéités de densité qu'on observe par leurs traces sur le rayonnement cosmologique font partie de ces observables qui ont émergé de l'univers primordial, très vraisemblablement, et qui ont été peu modifiées simplement par la gravité de façon complètement prédictible. Donc, c'est pour ça que le rayonnement de fond cosmologique et ses inhomogénéités sont un outil très puissant pour étudier l'univers primordial. Mais il n'y a pas que des photons qui peuvent nous venir de cette période, dans la mesure où il y a des inhomogénéités de densité et que ces objets ne sont pas immobiles, ils tombent dans les puits faits par la gravité des excès de densité. Il va y avoir des ondes gravitationnelles qui ont été générées. Alors, il y a plusieurs façons de générer des ondes gravitationnelles dans cette période. Et la question, c'est est-ce qu'on peut détecter ces ondes gravitationnelles ? Alors, vous me direz, pour l'instant, on n'a pas encore détecté les ondes gravitationnelles, même des systèmes binaires, etc. C'est ce que l'expérience Virgo, par exemple, qui est en train d'être construite, va essayer de faire. Mais on est déjà en train de penser à l'étape suivante, parce qu'une expérience comme Virgo ne peut pas détecter, il peut détecter les ondes gravitationnelles des systèmes binaires, ne peut pas détecter les ondes gravitationnelles de l'univers primordial qui sont à beaucoup trop basse fréquence, qui sont indétectables sur Terre, parce qu'il y a beaucoup trop de perturbations. Donc la seule façon de détecter ces ondes gravitationnelles primordiales, c'est le projet LISA. Alors si le projet LISA, qui est dans les cartons des agences spatiales, en particulier de l'Agence spatiale européenne, mais il y a un projet équivalent du côté de la NASA, voit le jour, ça sera probablement ce que je pourrais appeler le plus grand télescope qu'on ait construit, nettement plus grand que les télescopes de 8 mètres du VLT, ou même que l'interféromètre du VLT, ou avec les quelques kilomètres de l'interféromètre ALMA, puisqu'ici, vous voyez qu'on va avoir un triangle avec trois satellites de près d'un million de kilomètres de côté pour regarder passer les ondes gravitationnelles et regarder comment la distance entre ces satellites va varier avec le passage des ondes gravitationnelles de basse fréquence qui sont celles, entre autres, générées par la cosmologie. Et puis ce triangle, il va tourner autour du Soleil derrière la Terre, comme la Terre, et donc il va balayer toutes les directions progressivement et donc explorer le ciel en termes d'ondes gravitationnelles avec une sensibilité suffisante pour détecter les ondes gravitationnelles primordiales. Donc je termine là-dessus, c'est un exemple, non pas des progrès faits par les observations pour la cosmologie, mais de pour ces projets qui mettent 20 ans à être construits, hein, le télescope spatial, entre le moment où il était proposé et le moment où il était lancé, il s'est écoulé 25 ans. Le télescope ISO a été lancé en 1995, alors que les premières études dataient de 1978. Donc vous voyez que ce n'est pas une mauvaise idée de commencer à étudier un projet comme l'ISA aujourd'hui, si on veut effectivement avoir de tels moyens observationnels. Et donc, l'idée, c'est qu'on est probablement à la fin d'un cycle dans les relations entre la cosmologie et l'observation, et que c'est le pas suivant de la physique fondamentale qui fera démarrer le cycle suivant, et que ce cycle, lui, il aura de nouveau besoin pour faire les tests et tester la cohérence de l'ensemble du modèle de moyens d'observation de ce type-là. Voilà, merci.
Je m'excuse, mais je n'ai pas bien compris quelle était votre conclusion sur la géométrie de l'espace, de l'univers. Euclidien, non-euclidien, plat, courbe ?
Alors, la conclusion actuelle, qui n'est pas avec une précision très grande, mais le paramètre qui mesure cette géométrie, vite dit l'inverse de la courbure, pour l'instant, les données de l'expérience boomerang la mettent à une valeur qui, par rapport à ce qu'on aurait si on n'avait pas la matière noire à la constante cosmologique, par exemple, des valeurs qui seraient typiquement proches de l'unité, la met à des valeurs qui sont quelques pourcents, alors que un pur univers euclidien serait zéro, puisque la courbure serait infinie, donc l'inverse. Ça. Donc, à une précision de, disons, 10% près, le paramètre qui mesure ça est non seulement compatible avec, est compatible avec l'euclidien et encadre la valeur euclidienne à quelque chose qui est 10%. Donc pour l'instant, l'idée, c'est que c'est probablement euclidien. Et qu'on saura, avec une précision meilleure que le pourcent d'ici moins de 10 ans, quand les satellites MAP et PLANK auront donné leurs résultats, avec une très grande précision, si c'est euclidien ou non.
Vous avez une explication du paradoxe d'Olbers, maintenant ?
Alors, le paradoxe d'Olbers, lui, il s'explique naturellement dans le cadre de la relativité générale, même si l'univers est infini, dans la mesure où l'âge de l'univers est de toute façon fini, et où les objets qui sont très lointains, leur lumière est décalée vers le rouge, de plus en plus. Et donc, effectivement, la quantité ce qu'on retrouve sur le fond de ciel n'est que la quantité d'énergie qui a été rayonnée par tous les objets, ou ce qui reste du Big Bang. Et donc, effectivement, quand on intègre la quantité totale d'énergie des étoiles, en parfaite conformité avec, et y compris sur un univers infini, les intégrales convergent, avant même d'avoir été très loin, et conduisent à des valeurs finies qui sont tout à fait compatibles. Donc, de ce point de vue-là, la relativité générale et le modèle cosmologique dans la relativité générale répond complètement au paradoxe d'Olbers, alors que sinon, c'est probablement pas très facile.
Oui, bonjour. Je voulais revenir juste un peu, justement, sur l'expérience de mesure des supernovae il y a 3 ans qui ont effectivement, apparemment, amené à constater une accélération à l'expansion de l'univers. Et moi, j'avoue ne pas avoir tout à fait bien compris si cette mesure était en contradiction ou pas avec un univers euclidien. Et d'autre part, je voulais savoir si ce n'est pas contradictoire, enfin, ça vous allez me le dire. Et d'autre part, si on observe donc une accélération de l'expansion de l'univers, est-ce que ça n'a pas des conséquences fâcheuses sur toute l'évaluation des distances telles qu'on les a bâties jusqu'à présent ? Puisque si on part d'une variation d'expansion au cours du temps, j'imagine que ça pose quelques problèmes pour imaginer comment ça a pu varier, comment la variation a pu varier dans le passé, par exemple.
Oui. Alors, bon, d'abord, sur la réaccélération. En fait, ce qu'on fait, c'est une mesure de la constante de Hubble. Donc, on mesure des objets de plus en plus lointains et on regarde leur vitesse. Donc ça, disons que la pente moyenne donne la vitesse d'expansion. C'est la tangente à cette courbe qui montre. Donc, c'est la mesure principale, c'était ça. Après, quand on mesure plus finement, on peut regarder sur les derniers points quelle est la courbure, au lieu d'avoir simplement la partie linéaire, qui permet de voir si effectivement, non seulement, quelle est la vitesse d'expansion, mais effectivement, est-ce qu'elle accélère ou elle décélère. Et là, c'est des effets fins qui sont difficiles à mesurer et qui en particulier supposent qu'on comprend bien, donc c'est des objets lointains, qui sont typiquement à ce qu'on appelle un décalage cosmologique de l'ordre de 1, c'est-à-dire en gros l'univers deux fois plus petit qu'il était aujourd'hui, donc ça correspond à plusieurs milliards d'années d'évolution par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, et donc la grande question, c'est est-ce que les supernovae de ces périodes où il y avait probablement un peu moins d'éléments lourds, etc., n'ont pas des propriétés très légèrement différentes de celles d'aujourd'hui ? Ça a été regardé très finement, les gens ont regardé, et ils ont l'impression que ils ne voient pas d'évolution des propriétés. Ça a été en particulier, les grands télescopes au sol ont fait des spectres détaillés de ces supernovae, etc. On ne voit pas de différence. Et donc, les gens ont l'impression qu'effectivement, c'était un bon outil pour mesurer ça. Et donc, quand on regarde, on s'aperçoit qu'au lieu d'avoir une courbure, en quelque sorte, qui signe une décélération, la courbure signe une accélération. Et l'autre point important, c'est qu'ils ont mesuré, plus proprement que ça n'avait été fait, la vitesse d'expansion, par contre. Alors, la vitesse d'expansion, donc, ils ont trouvé une valeur qui est maintenant compatible avec celle qu'on déduit du corps noir cosmologique. Mais pour avoir une réaccélération, il faut mettre une constante cosmologique. Tous les modèles sans constante cosmologique décélèrent, parce qu'il y a simplement l'effet de la gravité des objets qui sont dedans. Donc ça, c'était une indication forte qu'il fallait une constante cosmologique, et ils ont évalué l'ordre de grandeur de cette constante cosmologique, et donc par rapport à cette densité critique qu'on utilise comme mesure, donc à qui on donne la valeur 1, la densité de matière fait à peu près 0,3, et la constante cosmologique ferait 0,7 pour donner cette accélération. Quand on regarde maintenant les données du fond cosmologique, on n'a pas de façon d'observer l'accélération, on observe l'univers à un instant donné, en fait au moment où la radiation du Big Bang est devenue, l'univers est devenu transparent, et donc on observe les structures, donc on observe ce qui s'était passé avant, et ce qu'on détermine, c'est la géométrie par cet effet de triangulation, puisqu'on connaît la dimension de ces structures, là on trouve que c'est euclidien, et donc si c'est euclidien, on détermine aussi la quantité de matière noire, et la quantité de matière baryonique qui ont des effets fins sur ces fluctuations. On trouve des valeurs qui sont, pour la matière baryonique, un facteur 2 de la valeur traditionnelle, c'est moins d'1% du total, ça ne joue aucun rôle dans la dynamique. Tout autant qu'on est, plus la planète sur laquelle on est, plus le soleil autour duquel on tourne, plus la galaxie dans laquelle on est, ne joue aucun rôle dans la dynamique de l'univers, désolé de vous le dire. On ne pèse pas lourd. Et la matière noire, qui était bien mesurée aussi par l'effet de l'antigravitationnel, fait à peu près 0,3. C'est aussi ce que dit le corps noir cosmologique. Et donc, pour que la géométrie soit plate, c'est-à-dire que pour que l'univers soit euclidien, il faut mettre 0,7. Donc là, c'est la géométrie qui impose donc, ces deux déterminations complètement indépendantes de la constante cosmologique qui donnent la même valeur. Ah, donc, ça se balade entre maintenant 0,65 et 0,72 pour les différentes déterminations. Donc c'est bien compatible et c'est bien deux déterminations qui sont totalement indépendantes en plus. Ce qui est évidemment là.
Oui, bonjour. Je voudrais vous poser deux questions. La première concerne l'antimatière. Vous n'en avez pas du tout parlé. Or, je crois savoir qu'on la constate dans toutes les expériences de laboratoire. Pourquoi vous ne l'avez pas intégrée dans votre modèle? Et la deuxième question, à un moment donné, vous avez parlé d'univers primordial de la taille du pamplemousse. Or, j'ai lu qu'on ne pense plus que le Big Bang ait été ponctuel, mais se soit produit un peu partout. Quelle est votre réponse?
Alors, il y a deux choses. D'abord, l'antimatière. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que moi, j'ai fait ma thèse sur les modèles symétriques matière-antimatière. En fait. Roland Omnes à Orsay avait construit dans les années 60 un modèle qui, effectivement, à l'époque où les physiciens ne voyaient pas de façon d'expliquer pourquoi l'univers avait plus de matière que d'antimatière, et cherchaient à construire un modèle symétrique où la physique des particules dans l'univers suffisamment tôt conduisait à un petit excès de matière dans certaines régions, un petit excès de matière d'antimatière dans d'autres régions, et où l'annihilation dans le refroidissement, laissait des régions de matière et des régions d'antimatière. Je vais finir par me casser la figure. Ce modèle était très satisfaisant d'un point de vue conceptuel à une époque où la physique des particules n'avait aucun moyen d'expliquer la dissymétrie. Il y a maintenant un certain nombre de violations de cette symétrie qui sont constatées dans la physique des particules. Il n'y a pas de modèle propre pour l'instant pour expliquer exactement pourquoi il y a la quantité de baryons qui reste. Ça fait partie des choses à faire. Mais a priori, il y a des mécanismes qui permettent, en ordre de grandeur, de laisser suffisamment de baryons. Ça, c'est un point. Et il y a un point observationnel, alors dont j'aurais pu effectivement parler. Ce qu'on avait calculé à l'époque, ça a été que, par exemple, l'annihilation au bord de ces frontières de matière et d'antimatière dégage tellement d'énergie que ça introduit une distorsion du spectre du corps noir qui était forte. Alors maintenant, avec cette limite de 10-5, ça exclut de façon extrêmement forte la présence d'antimatière à grande échelle. Le problème de la taille du pamplemousse, etc. C'est un abus de langage dont je m'excuse. On a souvent tendance à parler de la taille de l'univers au sens de sa courbure ou, en tout cas, de l'horizon, c'est-à-dire, en gros, de la distance que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Si on a un univers euclidien, il est infini, la densité augmente, mais il reste infini, reste euclidien, et donc il n'a pas une dimension bien déterminée. Par contre, effectivement, on peut toujours calculer la distance que la lumière a beau parcourir. Donc la distance, les 10 cm dont je parlais, c'est typiquement la distance que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Si c'est un univers fermé, sphérique, effectivement, à ce moment-là, c'est le rayon de courbure et c'est ce qui permet de calculer à peu près la dimension. Donc c'est un abus de langage parce que ça n'est vrai que dans le cas d'un univers fermé, sphérique. Mais il y a une dimension caractéristique qu'on peut calculer autrement. Donc il y a bien une dimension caractéristique.
Là-haut, précisément, j'aurais une question à ce propos. Vous avez parlé d'univers infini et d'univers en expansion. Comment pouvez-vous concilier l'infini et l'expansion ? Car si c'est infini, ça occupe le tout. Et comment le tout peut-il être plus que le tout ?
Ça, c'est un problème de nombre de dimensions. Ça, c'est pas très facile à concevoir d'un point de vue intuitif comme ça. Mais l'exemple que j'avais montré, qui est un univers à deux dimensions, comme une baudruche sur laquelle des êtres plats pourraient se déplacer et ne connaîtraient que ces deux dimensions-là, peut être en expansion à l'intérieur d'un univers à trois dimensions que la physique de ces êtres à deux dimensions ne connaît pas. Et donc, on peut mathématiquement, on n'a aucun problème à fabriquer un modèle où un univers à deux dimensions, effectivement, augmente comme une baudruche, en se dilatant dans un univers plus grand. Donc, de toute façon, mathématiquement, on peut effectivement concevoir ce genre de choses. Ça veut simplement dire qu'il y aurait, par exemple, sans que ce soit indispensable, des dimensions supplémentaires auxquelles on n'a pas accès. C'est de toute façon le genre d'hypothèse dans laquelle travaille une partie de la physique des particules, c'est-à-dire qu'il y a une partie des dimensions de l'univers auxquelles on n'a pas accès, qui sont des dimensions repliées. Donc, il n'y a pas de contradiction entre avoir un univers en expansion et un univers infini. Alors, ceci dit, après, comprendre comment la densité de l'univers peut diverger, c'est-à-dire devenir infini, tout en gardant un volume infini, de se dire qu'effectivement, du point de vue de physicien, ou même du point de vue du bon sens, c'est un peu choquant. Le Big Bang, où on aboutit à une singularité mathématique, c'est ce qu'on fait dans la relativité générale en supposant que la physique qu'on utilise est toujours applicable. Or, on sait une chose, c'est que la relativité générale n'est pas compatible avec la mécanique quantique. Et on peut l'expliquer de façon simple. À partir du moment où on rassemble une certaine quantité de matière ou des particules dans un volume suffisamment petit, le principe d'incertitude dit qu'effectivement, l'incertitude sur la vitesse d'agitation croît d'autant plus qu'on confine ces particules dans un volume petit. C'est évident que si on s'approche de la singularité du Big Bang, on va avoir ce problème-là. Et à partir du moment où on essaye d'imaginer, dans le cas de la relativité générale qui décrit la gravité comme un espace-temps courbe, mais régulièrement courbe, on essaye d'imaginer des variations extrêmement rapides à la fois de la densité et de la vitesse des particules quand elles sont confinées dans un espace tout petit, on arrive à ce que les gens ont essayé de décrire comme une espèce de mousse d'espace-temps où l'espace-temps est tellement perturbé qu'il n'a plus du tout la régularité de la relativité générale. C'est-à-dire que la description qu'on utilise pour prouver qu'il y a une singularité n'est plus valable. Une des choses qu'essaye de faire la théorie des cordes, c'est de dire que les particules ne sont pas ponctuelles, mais ont une certaine taille, et donc qu'en dessous de cette taille, la description n'a pas de sens. Et c'est ce qui est imposé par la mécanique quantique. Donc on voit bien que le genre de théorie que la physique fondamentale essaye d'utiliser pour réconcilier la physique quantique et la relativité générale contient aussi l'exclusion de la singularité initiale. Donc là-dessus, physique ouverte, ça on ne sait pas. On peut remonter très loin, mais à partir du moment où on arrive à ce qu'on appelle la période de Planck, c'est-à-dire la période où les incertitudes liées à la mécanique quantique deviennent comparables aux propriétés moyennes de l'univers, on ne sait plus quoi dire. Donc en fait, la relativité générale et le modèle standard s'arrêtent avant la singularité initiale.
Est-ce qu'on peut concevoir, si l'univers primitif était parfaitement homogène, quelque chose qui rendrait l'univers, à un moment donné, inhomogène ?
Oui. Alors, dans le modèle standard, il n'y a pas de prédiction précise des inhomogénéités dont on a besoin pour fabriquer les structures actuelles, mais on a effectivement une idée de leur nature dans un certain type de modèle, dont on ne sait pas encore s'il est vérifié ou non, qui est un modèle où, par-dessus l'expansion, disons, je dirais habituelle, celle qui était décrite par les univers de type Einstein, Desiter, etc., on ajoute ce qu'on appelle une période d'inflation dans l'univers primordial, qui est une période d'augmentation exponentielle du rayon. Et si on a une période de ce genre, les fluctuations quantiques du début de cette période-là sont amplifiées de façon telle qu'on peut avoir ces fameuses fluctuations de l'ordre du 100 millième avec la bonne taille pour produire les galaxies et les abondantes galaxies après. Donc l'idée, c'est que ça pourrait être les fluctuations quantiques de l'univers primordial. Ce n'est pas démontré. Et une des prédictions précises de ce modèle, c'est que ce qu'on appelle le spectre de ces fluctuations, c'est-à-dire, vite dit, l'amplitude des fluctuations à grande échelle par rapport aux fluctuations à petite échelle, est prédit par cette théorie, et que celui qui a été mesuré par l'expérience type boomerang, etc., est exactement celui-là, une fois de plus à quelques pourcents près. Donc c'est une indication, ce n'est pas encore beaucoup plus que ça, et donc il y a une possibilité d'expliquer ces fluctuations, on est encore loin d'avoir un modèle complet.
Bonjour monsieur, une question de détail d'un géologue. J'ai toujours été fasciné, préoccupé et parfois heurté par la question des températures en astronomie, beaucoup plus que par la question des distances. Il y a deux jours, lors de la conférence de votre collègue André Braïc, j'avais eu une lueur d'espoir parce qu'il nous disait que nous ne voyons environ sans doute que 15% de la matière de l'univers. Et puis, il a eu un paragraphe qu'il avait appelé « Raison et déraison ». Et puis, ce soir, j'ai été, je dirais, très préoccupé parce que vous nous avez parlé cette fois de milliards de degrés. Et pourtant, dans l'industrie ordinaire, lorsque l'on traite de l'hélium et de l'hydrogène et l'hélium, nous n'avons pas recours à de tels degrés. Donc, qu'est-ce que vous pourriez me dire ?
Bon, d'abord, les températures dont on parle, ce n'est pas exactement les mêmes, mais ne sont pas très différentes de celles qu'on suppose exister au centre des étoiles, là où se passent les réactions thermonucléaires, plutôt des centaines de millions de degrés, mais ce n'est pas très différent. Et vous pourriez me dire, on n'a pas de mesure directe de ces températures, ce n'est pas vrai. Si on regarde, par exemple, les oscillations du Soleil à l'heure actuelle, on fait de la sismologie, qui est, dans votre discipline, une technique bien connue, on peut mesurer la vitesse du son au centre du Soleil. Et la vitesse du son au centre du Soleil, quand je disais que les astrophysiciens ont rarement l'occasion de faire des mesures très précises, la vitesse du son dans le centre du Soleil colle avec le modèle solaire à une fraction de pourcent près. Donc la vitesse du son, c'est quand même très proche de la température. L'autre chose, c'est que finalement, ce dont on utilise, c'est les sections efficaces d'interaction des particules qui se rencontrent avec une certaine énergie, et que dans les accélérateurs, on génère des énergies qui correspondent à des températures très supérieures à ça. Donc ça correspond à la physique expérimentale, ce n'est pas de la physique spéculative. Bien. Température d'un milliard de degrés, les interactions entre particules, elles sont mesurées. Elles sont mesurées en accélérateur.
Bien, ben Jean-Loup Puget, nous remercions.